Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Alors aujourd'hui, je reçois Julien Gros, le metteur en scène de la pièce Les Tisseurs d'Instant, interprétée par la compagnie issue de ce cours. La pièce est à voir et à revoir du 5 au 23 juin à Amiens. Bonjour.
Bonjour.
Alors ces représentations sont en fait des reprises, puisque le spectacle était déjà joué auparavant, à votre sortie de résidence en 2019, puisque vous étiez au centre culturel Léo Lagrange. Mais les représentations étaient entrecoupées par le Covid, c'est bien ça ?
Alors, c'est pas tout à fait ça. Le spectacle, en fait, a joué l'an passé, en 2021,
oui.
en mai 2021. On s'est bagarré avec la pluie, c'était assez rigolo, ça laisse des souvenirs. Mais en fait, le spectacle était prévu, la sortie du spectacle initialement était prévue en mai 2020.
Oui.
Et là, on était carrément en plein confinement. Donc,
pas possible.
Donc, on a reporté à 2021, ce qui est... Enfin, personnellement, je dois bien l'avouer que ça m'a bien arrangé parce que je pense que on n'aurait pas fait le même travail, on a eu plus de temps. Ça a permis aussi au spectacle de décompter un petit peu. Enfin, voilà. Si, 2020, on aurait été un petit peu short, je pense. Donc,
Donc
on a créé une pandémie en fait pour pouvoir sortir.
Ah, c'est vous en fait, ça vient de vous.
Désolé.
Est-ce que vous pourriez nous faire un petit teaser de la pièce pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu ?
Carrément. Alors, le spectacle Les Tisseurs d'Instant, c'est donc, comme vous l'avez dit, un spectacle de rue qui parle de l'industrie textile.
Oui.
C'est en gros, voilà, le thème de la pièce. La compagnie Sud Secours avait au préalable rencontré d'anciennes ouvrières du textile. Donc, le spectacle se base sur ces témoignages en fait, d'anciennes ouvrières, mais toujours vivantes, et puis aussi d'une matière historique. Voilà, on s'est pas mal documenté. Et bon, c'est pas le meilleur synopsis de l'année, mais je vais le refaire. Donc voilà, le spectacle voilà, parle de l'industrie textile. C'est un spectacle à 360 degrés. Donc les spectateurs sont autour de la structure. Et en gros, on assiste à la vie d'une usine. C'est une fabrique de cravates. Donc il y a un patron qui est interprété par Julien Huet, qui lui, c'est un spectacle musical, festif et familial. Et lui, en fait, il boucle. En fait, il est polyinstrumentiste.
D'accord.
Et c'est en gros, c'est un peu lui qui donne le tempo, qui donne le rythme du travail. Et donc, il joue de la musique en live. Et puis, il y a cinq ouvriers qui complètent, ouvriers, ouvrières, qui complètent la distribution. Plus un septième personnage qui fait un peu des apparitions, qui a plusieurs rôles, en fait, qui amène un petit peu d'extérieur là-dedans. Et le point de départ, c'est l'inauguration d'un centre culturel. Puisque, en gros, on s'est dit, mais que sont devenues toutes ces usines du textile aujourd'hui ? Des friches industrielles. Qu'est-ce qu'on fait avec les friches industrielles aujourd'hui ? Bah, soit des logements ou des supermarchés ou parfois des centres culturels. Et en gros, voilà, donc le spectacle démarre comme ça. Et ensuite, on retrace la vie de l'usine, ce qui nous permet en fait de condenser 200 ans d'histoire en 50 minutes. Et en gros, on voit comment les mutations, les innovations technologiques transforment l'usine, transforment le rapport au travail. L'espace est toujours en mutation, la scénographie est évolutive, c'est-à-dire que voilà, l'usine s'agrandit, se modifie, le rythme évidemment s'accélère, et tout ça en musique, et il y a beaucoup d'art visuel, c'est très coloré, et c'est familial à partir de, je sais pas, 3, 4, 5 ans, ils comprendront peut-être
pas
tout.
Pour tout public, oui.
Ouais, c'est vraiment tout public. Peut-être qu'ils comprendront pas tout, mais ils s'ennuieront pas, ça c'est sûr.
Et vous êtes du coup le metteur en scène d'un spectacle qui n'est pas classique, puisqu'il est en quelque sorte mouvant, puisqu'il se joue dans la rue, comme on l'a dit. Qu'est-ce qui différencie la mise en scène d'un spectacle qui se joue en salle d'un spectacle en fait, qui vient vraiment se déplacer avec du public tout autour ?
C'est une très c'est une bonne question. Il y a plusieurs choses. Moi, ce que j'apprécie vachement dans le spectacle de rue, c'est la liberté qu'on a dans la forme.
En fait.
En salle, voilà, on a un plateau. Alors, on peut imaginer plein de formes. Mais je trouve qu'on est quand même plus limité qu'en rue. Après, il y a plusieurs facteurs. Hein. Donc, il y a cet aspect-là, cet aspect au niveau de la forme où on est, j'ai envie de dire, limité par notre imaginaire. Quoi. Ensuite, il y a l'attention du spectateur. C'est-à-dire qu'en salle, voilà, il y a quelque chose qui crée des conditions d'écoute toutes particulières. Personne ne parle, il fait noir. Et en gros, notre attention est focalisée sur la scène.
Oui.
En rue, En rue, on peut avoir un bus qui passe, le scooter, les gens, s'ils s'ennuient, ils s'en vont, chose qu'on fait quand même vachement moins facilement quand on est dans une salle. On n'a pas,
oui,
envie d'être celui qui se barre aux yeux de tout le monde. Mais du coup, il y a ça, il y a toute cette dimension-là. Il y a le fait aussi qu'en fait, on change à chaque fois d'espace et qu'il faut aussi penser le spectacle pour qu'il puisse s'adapter aussi. Il y a d'autres contraintes. Nous, par exemple, on a besoin d'un diamètre de 18 mètres. Comme c'est un spectacle à 360 degrés, il nous faut du plat parce qu'on déplace des structures qui sont sur roulettes.
Oui.
Donc, il ne faut pas n'importe quel plat. Enfin, voilà, il y a aussi tout ça. Il y a plein de choses. Après, tout dépend de comment on l'aborde. Moi, c'est ce que j'aime dans la rue, en fait. Voilà, c'est la liberté offerte à la forme et aux propos aussi.
Et comment vous avez fait pour que les comédiens puissent occuper tout l'espace? Parce que vu qu'il y a un public à 360 degrés, j'imagine en fait qu'il ne faut pas être dos au public. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, en fait. Comment vous faites?
Ça a été très compliqué.
Ouais,
au début,
j'imagine.
En fait, sur le papier, au début, c'est mortel, ok, super. 360 degrés, super, super. On a commencé les répètes et là, on s'est dit vite, effectivement, en fait, il faut toujours que le spectateur, en gros, ait quelque chose à bouffer. C'est-à-dire qu'il faut aussi un peu faire le deuil de, il y a des choses qu'il ne verra pas, mais il verra d'autres choses, en fait. Donc, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, on a vachement travaillé là-dessus sur comment aller chercher le spectateur, comment être en interaction avec lui pour aller le chercher et du coup, être toujours en mouvement, mais sans créer une mécanique, c'est-à-dire que sans faire en gros un espèce de troupeau de moutons qui tournerait toujours dans le même sens. Donc, on a vachement chorégraphié en fait la chose. On s'est creusé la tête, on a eu des moments de doute, évidemment, de vraiment comment faire pour qu'il se passe toujours quelque chose. Comment faire aussi pour... ça a été aussi un sacré défi, c'était parce que en plus d'être à 360 degrés, la structure centrale en fait, qui est au centre du coup du cercle, elle est sur deux niveaux. Il y a en gros les ouvriers qui sont au rez-de-chaussée, le patron qui lui est à l'étage dans son bureau.
D'accord.
Et du coup, il peut y se passer deux choses simultanées.
Oui.
Mais après ça, c'est aussi laisser parce qu'il y a du texte, mais il y a aussi des moments sans parole, juste en musique, où là, il y a des choses qui se font. C'est aussi une fabrique, donc on voit aussi vachement les comédiens faire, et ils font vraiment. Et du coup, c'est aussi de se dire que le spectateur a le droit de balader son regard. Et ça, on nous a fait des retours où on nous a dit que c'était vachement agréable, en fait, parce que même selon là où on est placé dans le cercle, on ne verra pas le même spectacle. Alors, on ne va pas non plus...
On ne voit pas sous le même angle.
Voilà, c'est ça, on ne voit pas sous le même angle. Après, les comédiens sont équipés de micros, donc je pense que tout le texte, en tout cas, nous parvient. Mais il y a des petits apartés comme ça, où un comédien vient... Nous, on appelle ça des camemberts, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un cercle en intégralité, mais c'est quatre camemberts. Et du coup, on a des petits moments privilégiés comme ça, avec certains comédiens, où ce que le comédien joue à ce moment-là, c'est juste pour nous, en gros. C'est juste pour ce camembert.
D'accord.
Mais les autres ont d'autres choses. Il se passe toujours quelque chose. Et puis, ils tournent comme ça, ça circule. Mais ça a été un gros défi. On s'est aussi... En fait, il y a un côté très cirque là-dedans, dans la piste de cirque. Et en fait, on voit qu'ils sont toujours en mouvement. Il y a aussi travailler en ouverture, ce qui n'est pas naturel. Ça veut dire que tu ne vas pas forcément regarder la personne à qui tu t'adresses, mais tu vas ouvrir, faire des allers-retours comme ça, sans cesse... on a travaillé comme ça. Mais c'était... Au début, ça... J'ai pas beaucoup dormi, moi.
J'imagine. Et pour le décor, comment ça s'est passé? Parce que pareil, il faut qu'il y ait un décor qui soit cohérent sur tout le char. En fait, c'est une sorte de char.
Alors, il est pas en... Enfin, c'est une sorte de char, mais il est pas...
Sur roulette. Enfin, y a pas
il est pas mobile, en fait. Il y a une structure centrale qui est, elle, est fixe. Et ensuite, il y a des espèces de stations sur roulette. Ça, c'est
d'accord.
Quand l'usine s'agrandit, ce qui nous permet de déployer en fait la structure et grâce au fil et au fil, au tissu, de vraiment, en gros, l'idée c'était de voir comment ce paysage industriel s'est aussi a envahi un petit peu les territoires, enfin en tout cas s'est imposé et est devenu de plus en plus gros. Et j'ai oublié la question.
C'était pour le décor.
On a travaillé en fait en, on a fait, c'était, ça ressemblait vraiment à un centre aéré.
Oui.
C'est-à-dire que c'était top, c'était super. On a vraiment fait, on va dire, 5 semaines de répétition, mais on a eu 2 semaines en plus pour se creuser la tête sur ce décor avec Alexandrine Rollin. Pardon. Alexandrine Rollin, donc, qui est la scénographe du spectacle, où on a beaucoup réfléchi au possible, en fait. Et on était vraiment en mode centre aéré, où là, tout le monde a mis la main à la pâte. On s'est dit, bon, voilà, il faut qu'on... On a fait des essais, on s'est trompé, on a recommencé. Jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous plaise, quoi. Et on a jeté quelques trucs, on a pas mal rêvé aussi. À la fin, on voulait que le patron se barre de l'usine en tyrolienne. Donc on s'est dit, est-ce que c'est faisable ou pas? Finalement, non.
Oui,
c'est un peu trop dangereux. Mais on a encore changé des choses là dernièrement, puisque comme vous l'avez précisé, c'est une reprise. On l'a joué l'an dernier, mais on s'est revu là une semaine en mai. Et on a changé la fin, en fait. La fin ne nous plaisait pas, mais comme on était dans le jus avant la première, bon, bah voilà, on a...
Il n'y avait pas vraiment de recul.
C'est ça.
Ouais.
Mais il y a un côté comme ça aussi dans la mise en scène, je trouve. Bon, là, c'est difficile parce que c'est un peu une image et à la radio, ça ne passe pas. Mais c'est comme si, en fait, on regardait quelque chose. Et plus on approche, plus l'image se rapproche. Et du coup, moins on voit de détails. Plus
ouais.
on est écrasé, en fait, par l'objet. Et là, le fait d'avoir laissé du temps... ça a permis de reprendre aussi un peu d'air et de distance par rapport à l'objet pour le regarder autrement et pour se réinterroger aussi dessus. C'est du spectacle vivant, ça bouge toujours. Enfin, y a...
oui.
Enfin, moi, j'aime bien être resté aussi à l'écoute de ça, de aussi, bah voilà, chaque comédien, ils ont joué d'autres pièces entre deux et du coup, ils arrivent avec une autre manière d'attaquer le personnage. Donc, ça bouge. En fait, faut rester à l'écoute. C'est jamais figé. Et du coup, moi, j'aime bien quand on reprend un travail. Parce qu'on a le temps de faire de nouvelles propositions. Et comme le trajet, globalement, il est inscrit et tout, on peut se permettre de modifier, de changer certaines choses et d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, quoi. Et du coup, là, voilà. Donc, on a modifié cette fin. Et peut-être qu'à l'avenir, voilà, il y aura d'autres choses qui bougeront. Mais le décor, ça a été... ouais, ça a été... et c'est quelque chose dont on est assez content. Alors, évidemment, il y a Alex qui a chapeauté tout ça. Avec Vincent aussi, Baudelet. Je parle de la première version, mais même les comédiens. Enfin, c'est un spectacle qu'on a fait, quoi. Je veux dire, il y a plein de cravates qui sont sur le spectacle, qui ont été cousues par une partie de l'équipe. Il y en a eu, pendant qu'il y en a certains qui faisaient ça, d'autres répétaient de la musique. Après, on se retrouvait, on faisait du chant. Après, on allait faire de la peinture. Enfin, c'était assez chouette, quoi. Ça devient un objet. C'est à nous, en fait. C'est assez chouette.
Et justement, on va reprendre la cravate.
Mmh.
Donc, c'est un symbole de la mondialisation dans votre pièce. Et pourquoi justement avoir choisi la cravate et pas un autre vêtement, une autre pièce?
On s'est posé la question d'ailleurs, parce que voilà, évidemment, symboliquement, la cravate renvoie à quelque chose de l'ordre du pouvoir, en tout cas, ou... la décision politique, enfin, il y a une symbolique qui nous plaisait là-dedans, même si c'est pas un procès, c'est plutôt vraiment une interrogation sur le mode de production, notre système économique. Est-ce qu'il est, aujourd'hui, on en voit toutes les limites en fait et
oui.
toute l'absurdité. On crame, je ne sais plus combien. J'étais plus au taquet là-dessus l'an dernier. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais je me rappelle plus exactement. Mais on crame un nombre incroyable, ça se compte en tonnes de fringues qu'on crame chaque année, en fait. On les incinère, littéralement, pour pouvoir continuer à produire. Donc, il y a une espèce comme ça de principe d'une production qui ne s'arrête jamais, qui est un peu folle, en fait, parce que, je veux dire, aujourd'hui, les limites, elles sont environnementales, sociales, humaines, elles sont multiples, nombreuses et variées, quoi. Donc, en fait, il y avait aussi cette symbolique de la cravate. Ça me plaisait parce que ça renvoie à cette décision, à ces choix qui sont faits. Et il y a aussi la trajectoire du produit. Ça me renvoie quand j'étais 15 ans en arrière, quand je faisais les vendanges. Et je m'interrogeais, je faisais les vendanges en Champagne. C'était toujours... ça me surprenait, en fait, de voir par qui ramasser le raisin et par qui est bu le champagne. Et là, il y a vraiment une trajectoire sociale du produit que je trouve assez passionnante et qui raconte assez bien, finalement, la société, quoi. Et là, la cravate, c'est pareil. Elle est faite par des ouvriers qui ont des conditions de travail...
Parfois précaire.
Alors même si, il y a aussi, y a aussi des ouvrières et des ouvriers qui disaient qu'ils aimaient leur travail et tout, machin. Mais voilà, il y a aussi eu beaucoup d'accidents du travail. Il y a eu des conditions de vie précaires avec de faibles rémunérations. Enfin, le travail à la chaîne, voilà, on s'arrête jamais. C'est quelque chose, quoi. Les corps qui s'abîment. Et je trouvais ça, voilà, je trouvais l'objet intéressant, quoi. Et puis, on a pu le décliner aussi. On a des cravates géantes, des petites cravates, des cravates en plastique, des cravates en tissu, des cravates en laine. C'était assez facilement déclinable, quoi. Et c'est chouette parce qu'en fait, c'est très vite identifié. C'est aussi l'avantage de ça, quoi. C'est que c'était très vite identifié.
Et à l'origine, pourquoi vous avez choisi la mondialisation comme, comme thème de la pièce?
Bah,
qu'est-ce que vous avez vraiment voulu mettre en avant?
Alors, c'est pas disons que ça, c'est un peu l'aboutissement de la pièce.
Oui.
Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est l'impact en fait de l'innovation et du productivisme en fait. C'est-à-dire que on part d'une usine où le travail est manufacturé. Alors comme ça, on pourrait dire que c'est un peu idéalisé, mais en fait, pas tant que ça. On part d'une époque où le travail est manufacturé, donc les rythmes de travail sont plutôt cool. Le spectacle, il est pensé comme ça, en fait, comme une relation qui se dégrade,
oui.
Une relation amoureuse, j'entends. C'est-à-dire que au début, le patron, il joue de la bossa, c'est plutôt cool, machin, on s'entend bien. Et plus on avance, et plus le rythme s'accélère, et en gros, moins ils ont d'échanges, quoi. Et ensuite, il y a la mécanisation avec la vapeur, où là, voilà, on produit toujours plus, puis jusqu'à arriver à l'automatisation. Et à l'automatisation, où là, c'est un peu aussi tout ça, de notre époque moderne, de tous les bullshit jobs, en fait, de tous ces travaux, enfin, on ne trouve plus de sens, en fait, on ne sait plus très bien, on n'est plus forcément fier de ce qu'on fait, on n'a plus forcément d'appétit à faire ce qu'on fait. Et du coup, en gros, voilà, l'idée, c'était de parler ça, c'était aussi de parler du sens qu'on met dans tout ça, en fait, dans notre travail. Et aussi que, c'est pas tant, c'est aussi la disparition d'un travail en fait, c'est la mondialisation et les impacts de la mondialisation. Mais en gros, c'est plus que la mondialisation, c'est aussi c'est regarder d'aujourd'hui et de pas regarder avec, comment dire, on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, mais si on avait été, je sais pas, il y a 100 ans ou 60 ans nous-mêmes, on n'aurait peut-être pas eu le même regard critique qu'aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est aussi c'est pas forcément, c'est pas forcément que la mondialisation qui est au cœur du propos. Mais inévitablement, je veux dire, à Cossera, là, des usines d'Amiens, il y a des ouvrières qui, du jour au lendemain, se sont pointées à l'usine et les machines avaient été délocalisées dans la nuit. Et elles n'étaient pas averties, elles n'étaient pas au courant. Enfin, il faut imaginer la violence du truc, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu te pointes à ton boulot, c'est comme si on arrive ici dans le studio, tu arrives et il n'y a plus de matos. Il n'y a plus rien.
Oui.
Et bon, le message est assez
mais
clair.
Mais qu'est-ce qui arrive?
Et ouais, et du coup, la descente d'organes, ça devait être un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 35 ans que je bosse là, et là, du jour au lendemain, plus rien. Et c'est aussi une réalité. Enfin, je veux dire, la violence de ça, c'est aussi une réalité d'un modèle économique qui fait qu'on va aller chercher à faire encore plus de thunes, alors qu'on en fait déjà, mais on va délocaliser ailleurs. Même le cynisme du truc, c'est que parfois, on demandait aux ouvriers qui allaient être licenciés de former les gens qui allaient reprendre la machine derrière eux.
C'est horrible.
Enfin, c'est, oui. Ouais, c'est... Humainement, ça soulève plein de choses, quoi. Il y a
bah,
tout y a ça.
Il n'y a plus d'humain, en fait, là-dedans. Hein. C'est...
Ben ouais, c'est les chiffres qui...
C'est ça.
C'est les chiffres qui priment, en fait. Et voilà, je trouvais ça assez fort en fait, parce que l'idée c'était pas non plus que ça touche uniquement les ouvrières du textile, mais aussi tout un tas de gens, quoi, de se dire c'est inhumain ce qu'on fait, enfin,
que ce soit assez universel.
Ben ouais, effectivement, parce que je pense que il y a plein d'absurdités. Enfin, on en voit au quotidien et encore une fois, enfin, je veux dire, on en voit bien les limites. Du coup, voilà, c'est une invitation à s'interroger là-dessus. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça, en fait? Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Est-ce qu'on a vraiment envie d'un truc où... mais je dis ça, mais je veux dire, enfin, moi, j'ai une bagnole. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, c'est là aussi où j'arrive pas. Enfin, on n'arrive pas, mais je voulais pas non plus faire un truc genre on fait la leçon. Non, c'est pas ça. C'est on est tous là-dedans, en fait. On a tous des fringues. On achète tous des fringues. Alors après, on peut les acheter en fripe. On peut les acheter. On peut essayer de faire gaffe à leur provenance ou à des choses comme ça. Mais inévitablement, on consomme du plastique. Il y a aussi tout ça, c'est la deuxième industrie la plus polluante. En fait, c'était aussi ça moi, qui m'intéressait, au-delà, en plus de la mondialisation, c'est aussi cet aspect-là. Quoi. C'est la deuxième industrie, après l'industrie pétrochimique, c'est la deuxième industrie la plus polluante. Et on a, en gros, là, si on s'arrête de produire des fringues aujourd'hui, on a 3 ans, je crois, d'autonomie devant nous. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de stock là, pour continuer à s'habiller. Et il y a aussi la mode éphémère. Enfin, oui. Ça parle aussi de tout ça, c'est-à-dire que la mode éphémère, c'est on va produire en masse une année parce qu'un truc est à la mode, mais l'année d'après, tout ce qu'on a produit mais qui n'est pas porté, on le crame, on n'en veut plus, on s'en débarrasse. Quoi. Donc voilà, il y a aussi tout ça. Est-ce qu'on a besoin d'autant ? Est-ce qu'il faut qu'on... Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est que ça outrepasse aussi ce secteur d'activité. C'est aussi une interrogation sur la façon dont on a envie de vivre... au quotidien, quoi.
C'est sûr.
Et sans oublier que ça reste un spectacle et donc un divertissement. Donc voilà, il y a aussi des moments où on rigole. Enfin, il y a plein de moments où on rigole d'ailleurs. Je pense que le message y passe. Il n'y a pas besoin d'en remettre une couche. Enfin, on ne va pas remettre du Nutella sur la confiture ou quelque chose comme ça. Enfin, il n'y a pas besoin d'en remettre. Pour moi, le message, il est suffisamment clair. Et on passe aussi quand même un bon moment et c'est joli et c'est beau. Et ça, on nous le renvoie pas mal. C'est que c'est beau. Et ça, on est content parce qu'il y avait aussi vachement ça dans les témoignages. C'est la fierté de faire du beau. J'étais marié à ma machine. Enfin, il y avait vraiment un rapport au travail, une relation très forte, quoi. Et du coup, c'était aussi comment éviter, comment ne pas dénigrer ça.
Oui.
Parce que ce serait facile, enfin, de tout rejeter en bloc et d'être dans une attitude très c'est de la merde et tout machin. Ben pas que, en fait. Et c'est là où. Faut essayer d'amener de la nuance, enfin quelque chose comme ça, quelque chose dont on manque cruellement aujourd'hui, mais de se dire ne voyons pas que le négatif, essayons aussi de voir le positif. Pareil pour l'image du patron, c'est tentant d'en faire un patron déshumanisé, mais en fait lui aussi il évolue quoi.
Il faut pas que ça tombe dans la caricature en fait.
Bah ouais, même ouais c'est ça, on a essayé. Alors après on a essayé. De pas tomber là-dedans, mais on a fait un personnage un petit peu, c'est un peu le roi de la pop en fait, c'est un peu une espèce de personnage loufoque comme ça qui joue beaucoup de musique live et qui en gros lui c'est le fils de papa et il reprend l'usine et lui c'est comme ça en fait, c'est la vie, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de faire preuve un peu d'empathie dans le sens où il essaie de se mettre à la place parce qu'on est un peu comme ça, on pourrait rester bloqué chacun dans nos positions et se dire, on n'en bouge pas. Mais de se dire que lui, alors après, je ne fais pas du tout l'éloge du patronat, hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais de se dire que peut-être on devient patron parce qu'on est fils d'eux, comme on devient ouvrier parce qu'on est fils d'ouvrier. Alors ça, c'est encore un long débat sur c'est Bourdieu, machin, la capitale culturelle, nanana, mais bref. Tout le truc de la reproduction, parce que la reproduction, elle est valable pour le milieu ouvrier, mais elle est aussi valable pour ce milieu-là, quoi, et de se dire, est-ce que lui, il a choisi Puis en fait, à la fin, il revend et il se barre. Et bon débarras, voilà. Il laisse tout le monde en plan, et voilà, et c'est la cruauté du truc. Moi, j'avais envie de finir là-dessus, parce que ce truc de Costra, là, dont je parlais tout à l'heure, ça m'a vachement marqué, quoi. J'ai trouvé ça hyper violent, c'est une rupture, mais hyper violente, quoi. Inattendue.
Mais ils font pas dans l'humain, en fait, c'est clairement... Ces gens-là sont remplaçables par des machines ou autres, et en fait, au final, on leur retire ce statut d'humain.
Ouais,
ça devient des machines ou des chiffres, en fait, sur un papier.
Bah ouais, par exemple, dans le spectacle, il y a un moment, il y a un Uber qui vient livrer la bouffe au patron. C'était aussi pour faire écho un peu à ces ouvriers des temps modernes, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que le Uber, il est... Il travaille au chronomètre en fait.
Oui, c'est ça.
Et le pire, c'est qu'il a perdu. C'est lui-même son propre contre-maître, quelque part.
Oui.
Et c'est là où ça devient terrible, c'est que tu es dans une espèce d'autorégulation de toi-même et de t'imposer plein de choses, d'être toujours dans une espèce d'urgence et tout. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est. Il y a une question du désir aussi. Est-ce qu'on désire tout ça ? Est-ce que c'est désirable ?
Là, quand on voit tout ce qu'il y a derrière.
Bah ouais, quand tu vois, c'est des salaires de misère, tu peux être éjecté. Je sais plus exactement comment ça se passe, mais je crois que tu reçois une notif quand t'es viré d'Uber. T'as même pas, en fait, t'as même pas de. Il n'y a pas quelqu'un qui vient te voir pour te dire salut, tiens, j'ai vu ton machin.
Faudrait qu'on... Un beau matin sur son téléphone.
C'est une notification, quoi. Waouh, tu dis, c'est ça le travail de demain, c'est quand même dingue, quoi. Alors, et après, on s'interroge aussi, on se dit, mais comment ça se fait que les jeunes, nanana, ils veulent pas travailler, mais qu'est-ce qu'on propose, en fait? Est-ce que ce type de job est désirable? Est-ce que c'est épanouissant?
C'est simplement alimentaire, à mon avis.
Ouais, je pense aussi. Ben oui, bien sûr. Enfin, quoique, peut-être qu'il y a des coursiers qui adorent être coursiers, je ne sais pas. Oui. Mais je ne sais pas. Donc, enfin, on en doute quand même un petit peu. Mais ouais, c'est aussi une réflexion là-dessus, en fait, sur le travail, sur le sens, sur qu'est-ce qu'on a envie de construire collectivement. Parce que c'est ça aussi, c'est une espèce d'enjeu d'époque, quoi. À la fois, et la pollution, et le rapport au travail, et les rapports hommes-femmes dans le travail. On en parle aussi dans le spectacle. Et. Il y a un truc aussi très noir de l'époque dans laquelle là on est, très pessimiste, très à juste titre, je pense. Enfin, et en même temps, comment on arrive à ramener une dose aussi d'optimisme en fait dans tout ça?
Oui.
Et c'est hyper dur là dans le spectacle, parce que le spectacle il finit, on peut pas dire que ça finit sur une note d'optimisme, mais ça finit sur une note de et maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut faire? Il n'y a pas la réponse. Hein. Je pense que c'est vraiment aussi à chacun de faire le trajet. Si les spectateurs repartent avec cette question-là, c'est super. Après, s'ils ne repartent pas, bon, bah, voilà, c'est tout. On ne peut pas toucher tout le monde non plus.
Oui.
Mais s'il y a ce petit travail-là qui peut être fait, c'est top, quoi. Et puis après, c'est au quotidien comme on peut, tous les jours, quoi.
Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à l'émission.
Merci à vous pour l'invitation.
C'était Julien Gros, le metteur en scène de la pièce Les Tisseurs d'Instant, une pièce que vous pourrez retrouver du 5 au 23 juin à Amiens. Vous pourrez retrouver également cette émission sur notre page Facebook ou sur notre site internet radiocampusamiens.fr. Et je vous dis à demain!